Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue. Et nous partons en Sicile où un homme s'active dans l'ombre pour aider les migrants qui débarquent sur les côtes italiennes. Ancien immigré érythréen, arrivé il y a 40 ans en Italie, il constate que les conditions d'immigration se sont durcies, que les périples sont devenus dangereux et il renseigne les plus perdus. Abra Towolde se bat aussi pour leur éviter de tomber dans les griffes des passeurs. Cécile Debarge l'a rencontré à Catane devant la gare.
Abra Towolde arrive seul devant la gare de Catane, de la même façon qu'il arpente seul les rues adjacentes lorsqu'il apprend qu'un bateau de migrants vient d'arriver au port. Lieu incontournable pour poursuivre leur voyage, les migrants y viennent nombreux sans trop savoir où aller. Abra Towolde les aide à acheter un billet de bus ou de train, à trouver à manger ou des vêtements propres, à se soigner si besoin.
Quand je suis arrivé ici, en tant qu'immigré, j'ai moi-même connu quelques problèmes. J'ai eu du mal à parler la langue, à me faire comprendre, à manger, à me laver, à prendre une douche, à dormir. Et tout ça, c'est vraiment entré en moi. Je l'ai dans le sang maintenant. Alors quand je croise un autre migrant, j'ai l'impression que c'est moi ou que c'est l'un de mes enfants.
Son voyage à lui a été bien différent. En 1974, il fut la guerre d'indépendance en Érythrée. Son père, un pharmacien d'Asmara, la capitale, lui paie le voyage pour, dit-il, éviter de le voir mourir sous ses yeux.
40 ans d'Érythrée.
Il y a 40 ans, pour faire le voyage d'Érythrée en Italie, ce n'était pas comme aujourd'hui en bateau. J'ai pris un vol d'Asmara, où je suis né, jusqu'à la Grèce. De la Grèce, j'ai pris le bateau, un bateau touristique, pas un bateau comme aujourd'hui. Je suis arrivé à Brindisi et ensuite à Rome. Ce n'était pas difficile comme ça l'est maintenant, c'était juste difficile financièrement.
Abra Towolde a 18 ans, il dort dans les gares et cherche des petits boulots. Chauffeur routier, chauffeur privé, hôtellerie, maçon. Il s'adapte et part de Rome à Capri avant d'arriver il y a 40 ans en Sicile. C'est là, à Catane, qu'il redécouvre ce pays où il n'est pas retourné depuis les années 80. L'Érythrée, ces dizaines de milliers de migrants qui fuient la dictature et ses parcours migratoires de plus en plus difficiles.
Avant, les migrants faisaient davantage confiance. Il suffisait que quelqu'un parle leur langue. Mais il faut dire qu'il s'agissait surtout d'adultes. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce que ce sont beaucoup de mineurs. Les plus vieux, parmi ceux qui arrivent, ont 25 ans maximum. Les plus âgés ne viennent plus. Ce ne sont que des très jeunes. Ils arrivent à 13, 14 ans, 12 ans parfois. Et c'est un énorme problème.
Abra Towolde parle parfaitement le tigrina et à travers les récits des migrants qu'il rencontre, il découvre son pays très différent de celui qu'il avait quitté. Il le jure, depuis 2 ans environ, les récits sont encore plus durs, jusqu'à l'insoutenable, comme l'histoire de cette femme qu'on lui a racontée et qui l'a particulièrement marquée.
Ils l'ont trouvée à l'entrée du désert libyen. Elle avait une petite croix sur le front, elle était avec ses 2 enfants. Ils ont d'abord tiré sur les enfants, puis sur la mère. Cette histoire m'a profondément bouleversée. Et d'autres comme ça, il y en a beaucoup, mais je ne veux pas en parler, je ne veux pas me souvenir. Non, je ne veux vraiment pas me souvenir.
Son regard pétille tellement qu'il est parfois difficile de savoir si c'est de rire ou d'émotion. L'Érythréen, aux airs de grand-père sicilien, ne voit aucune bravoure dans ce qu'il fait. D'ailleurs, il préfère rester anonyme auprès de ceux à qui il vient en aide.
Avant qu'ils repartent, je ne leur donne jamais mon nom, je ne leur donne jamais de numéro, mais eux, ils le cherchent. Et je ne sais pas comment, ils finissent par me retrouver et parfois m'appellent. En fait, si je ne leur donne pas mes coordonnées, ce n'est pas que j'ai peur, mais que je ne veux pas les embêter et m'inquiéter si je n'ai pas de nouvelles le lendemain. La seule chose qui compte pour moi, c'est qu'ils finissent leur voyage et soient heureux.
De cette préoccupation en apparence si simple, Abra a fait un principe qui lui vaut de nombreux ennemis. Les abords de la gare sont d'habitude le fief des passeurs à l'affût de migrants désorientés pour leur vendre à prix d'or des taxis, des billets de bus ou des cartes de téléphone. Des passeurs comme ceux qui s'approchent un peu trop lors de notre interview et nous contraignent à couper le micro. Ils lui ont déjà crevé les pneus de sa voiture une dizaine de fois. Ils n'oseront jamais me tuer, rigole Abra, en espérant que ce soit vrai.
Les Les hommes, les femmes et les enfants qui fuient leur pays doivent donc d'abord affronter les passeurs et leur avidité. Quand ce premier obstacle est franchi, ils se heurtent alors à des murs, clôtures en Bulgarie, en Hongrie, à la frontière avec la Roumanie, la Croatie, mais aussi avec la Serbie. Un homme a élevé la voix en Hongrie contre ces murs de la honte. Robert Molnár est le maire d'un petit village du sud de la Hongrie, Kubekraza, et il dénonce un nouveau rideau de fer, il l'a dit à Florence Labruyère.
Robert Molnár est né à Kubekraza il y a 46 ans. Depuis qu'il est à la tête de la commune, cet homme cordial et père de trois enfants l'a transformé en un village de contes de fées. Tout est impeccablement fleuri, le drapeau étoilé de l'Union européenne flotte à tous les coins de rue, et le maire a tissé d'excellentes relations avec les villages voisins de Roumanie et de Serbie. Car Kubekraza se trouve exactement à l'intersection de trois frontières, celle de la Hongrie, de la Roumanie et de la Serbie. Mais voilà que le gouvernement hongrois a fait construire une clôture de barbelés à l'orée du village, le long de la frontière serbe, et il est en train de la prolonger côté roumain. Robert Molnár est très mécontent, il ne se prive pas de critiquer ce mur anti-migrant.
Cette clôture n'est pas là pour arrêter les migrants, mais pour des raisons de politique intérieure. Il faut bien voir qu'en ce moment, c'est Gábor Vona qui dicte la politique de Viktor Orban.
Gábor Vona est le chef du mouvement d'extrême droite Jobbik, le plus grand parti d'opposition. Depuis un an, le Jobbik aurait attiré un nombre conséquent d'électeurs de droite. Selon Robert Molnár, c'est pour reconquérir cet électorat que Viktor Orban a fait bâtir la clôture.
Cette clôture veut envoyer ce message. Nous aussi, on est des patriotes. On est aussi nationalistes et on protège autant la patrie que le Jobbik. On peut vous offrir la même chose que le Jobbik.
Tous les ans, au mois de mai, les villages serbes, roumains et hongrois organisaient un pique-nique européen à l'intersection des trois frontières, dans le cadre de la coopération euro-régionale. Mais il n'y aura plus de pique-nique champêtre, car à cet endroit, il y a maintenant un grillage hérissé de barbelés, ce qui désole Robert Molnár. Il a demandé qu'il y ait des portes dans le grillage pour les frontaliers, mais les autorités n'ont pas encore répondu. Le gouvernement construit un nouveau rideau de fer, c'est le mur de la honte, un mur qui va nous isoler comme dans un ghetto, dit-il. Robert Molnár est de confession évangélique. Pour cet homme très croyant, la mission du politicien de demain n'est pas de construire des murs, mais des ponts entre les hommes.
Les jeunes européens.
La chronique.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors, les jeunes européens pourraient vivre moins longtemps que leurs grands-parents. C'est la révélation choc de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui espère bien déclencher ainsi une prise de conscience.
Oui, mais commençons, si vous voulez bien, Catherine, par les bonnes nouvelles contenues dans le rapport. Entre 2007 et 2012, les inégalités en matière de santé ont plutôt été réduites entre les différents pays. Et l'espérance de vie a globalement reculé en Europe. Elle est passée à 77 ans et demi chez les hommes et atteint plus de 83 ans chez les femmes, avec un record détenu en Suisse. Rappelons tout de même qu'elle était de 62 ans. En 1950.
Oui, mais seulement voilà, les chiffres sont trompeurs, Eve.
Oui, car l'augmentation rapide observée pendant les 30 glorieuses connaît aujourd'hui un ralentissement. Pire, si l'Europe pouvait atteindre les 90 ans d'espérance de vie en 2100, c'était les prévisions, l'OMS tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Les jeunes Européens fument trop, boivent trop. Cela pourrait bien inverser la courbe de l'espérance de vie en quelques dizaines d'années.
Et oui, car l'Europe, toute génération confondue, reste une région particulièrement concernée par le tabagisme et l'alcoolisme.
Oui, et ces facteurs de risque viennent se combiner à d'autres phénomènes planétaires bien connus, comme le surpoids et l'obésité, par exemple, qui concernent aujourd'hui 59% des Européens, un taux juste en dessous de celui des Amériques, qui a fortement augmenté ces dernières années, ce qui explique que la santé des Européens pourrait bien être plus fragile demain qu'hier. Alors bien sûr, le Bureau Régional Européen de l'OMS, de l'Organisation Mondiale de Santé, chargée de la rédaction du rapport, souligne les efforts pratiqués en direction des jeunes dans les différents pays. Il y a l'encadrement du marketing des boissons alcoolisées, le contrôle des prix, leur disponibilité dans le commerce, ainsi que la prise de conscience généralisée ces dernières années de la pratique de binge drinking, le fait de boire beaucoup très vite pour atteindre l'ivresse. Mais les Européens restent quand même parmi les plus gros consommateurs d'alcool, 11 litres par personne par an en moyenne.
Et même prise de conscience hein, ces dernières années avec le tabac évidemment.
Oui, différentes mesures sont venues récemment prévenir l'augmentation du nombre de fumeurs chez les jeunes Européens, interdiction de fumer dans les lieux publics, instauration des paquets neutres ou augmentation du prix. Côté cigarette, reste que les Européens restent particulièrement accros à la cigarette. 1 sur 3 en moyenne fume aujourd'hui en 2015. Sur le continent, ce sont les Russes et les Grecs les plus concernés, à l'inverse des Danois et des Irlandais. Et les campagnes de prévention de ces dernières années n'y ont malheureusement pas changé grand-chose.
Alors, autre notion hein, mise en avant hein, dans le rapport de l'OMS, le bien-être qui guide aujourd'hui les politiques de santé des États européens.
Oui, bien sûr, le but n'est pas seulement de vivre longtemps, mais surtout de vivre bien, de vivre mieux. Et même si le rapport se veut encourageant, notamment au regard des objectifs affichés pour 2020, il s'inquiète de la question de l'accès aux soins, qui reste centrale et creuse les inégalités. En Europe, de nombreux jeunes continuent de renoncer à se faire soigner parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et le taux de chômage très élevé chez les jeunes ces dernières années risque de ne pas améliorer la situation.
Et oui, hein, des récentes études montrent même qu'un étudiant sur 5 en France ne se soigne pas.
Et oui, et cela faute d'argent. Alors pour pallier à cette absence de soins et surtout réduire donc les inégalités entre ceux qui ont les moyens de se soigner et ceux qui ne les ont pas, un centre de santé par exemple vient de voir le jour gratuitement à Paris, Paris Descartes, l'université Paris Descartes. Une quinzaine de médecins et de spécialistes accueillent les étudiants dans le besoin.
Merci Eve Minot et on vous retrouve évidemment la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
On la surnomme la Silicon Taïga. Akadem Gorok se niche dans les sombres forêts sibériennes à une trentaine de kilomètres de Novosibirsk. La cité scientifique est une création de la guerre froide. Quand dans les années 50, Nikita Khrouchtchev voulait faire de la recherche une vitrine de l'Empire soviétique. Depuis, la perestroïka a bouleversé la donne. Alors aujourd'hui, la cité tente de renouer avec son prestige d'autrefois. Reportage sur place, Étienne Bouche.
Un soleil franc fait briller la coupole dorée du nouveau bâtiment universitaire que l'on inaugure aujourd'hui. Les étudiants le surnomment R2-D2. Sa forme rappellerait celle du robot de Star Wars. En tout cas, son allure ne fait pas l'unanimité. Après-midi détente à Akadem Gorodok, des stands ont été installés. On y épate le visiteur avec des réactions chimiques et des robots télécommandés. L'université veut susciter des vocations. Ilya Beterov, la trentaine, est tombé dedans enfant. Né ici, il est issu d'une famille de scientifiques. Il est aujourd'hui physicien.
À 9 ans, j'avais déjà lu des livres de vulgarisation sur la théorie de la relativité. Je me suis demandé s'il était possible de construire une machine à remonter le temps. Après ces lectures, j'ai compris que ce n'était pas possible, mais ça m'a permis en tout cas de découvrir des concepts scientifiques comme l'horizon des événements, le ralentissement et l'accélération du temps.
Nous sommes ici à Akadem Gorodok, une cité qui vit le jour en 1959, en pleine forêt. Avant ici, il n'y avait rien. Le projet est confié par Khrouchtchev au mathématicien Mikhail Lavrentiev qui y fait venir les plus grands savants du pays, notamment de Leningrad. Le pouvoir veut alors en faire un pôle d'excellence consacré à la recherche tout en développant la Sibérie. Chaque spécialité a son institut, la physique nucléaire, la géologie, la mécanique. Le projet est ambitieux et stimule la communauté scientifique. Natalia Pritvitz, 84 ans, s'en souvient bien puisqu'elle est arrivée ici à l'été 59, elle a connu le fondateur.
Ceux qui ont vécu les premières années de travail ici, même ceux qui sont partis par la suite, disent qu'elles ont été les meilleures de leur vie. Des années d'enthousiasme, d'entraide, l'arrivée de nouvelles personnes, les rencontres, le travail passionnant. Ce fut vraiment un âge d'or.
L'université d'Akadem Gorodok acquiert une belle réputation. Les cours sont dispensés par des chercheurs en poste et des académiciens. Les étudiants ont vocation à assurer la relève. La cité scientifique attire et sa renommée dépasse les frontières de l'URSS. Natalia nous montre un vieux livre qu'elle tient dans ses mains.
Ici, il y a De Gaulle avec Lavrentiev et la Pompidou. Cette photo doit être de 1966 et celle-là de 70.
Akadem Gorodok connaît un développement soutenu pendant 2 décennies. C'est un lieu d'émulation intellectuelle, mais aussi un îlot de liberté. Seulement, il est victime des bouleversements de l'histoire. La cité décline dans les années 80 et la perestroïka lui porte un coup sévère. Il n'y a plus d'argent et les scientifiques n'ont plus la cote. Ilya Beterov.
Bien sûr, aujourd'hui, le prestige de la science est bien loin du niveau qu'il avait à l'époque soviétique. Il s'est incontestablement affaibli. À l'époque où j'étais étudiant, c'était difficile de trouver une université et surtout d'imaginer comment vivre de la science. Aujourd'hui, c'est difficile de généraliser, mais selon moi, c'est possible. Le point positif, c'est que les gens qui exercent aujourd'hui ne font pas ce métier pour le prestige, mais simplement parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer faire autre chose.
Avec le temps, Akadem Gorodok est devenue une ville à part entière, aimée de ses habitants. La vie y est plus agréable qu'à Novosibirsk, à une 30aine de kilomètres. Mais la recherche, elle, se cherche un nouveau souffle. Un centre futuriste consacré aux nanotechnologies récemment sorti de terre, peut-être un signe de renouveau. Vassili Sukharukov est professeur à l'Institut de géologie. Il est plutôt optimiste.
Du point de vue de la formation, il me semble que c'est de mieux en mieux. On fait davantage de partenariats avec les universités étrangères qu'à l'époque soviétique. Le niveau augmente. Aujourd'hui, on a le programme des super bourses. Il y a peu d'élus, bien sûr, mais leur montant est conséquent.
Vassili fait référence au concours des super bourses lancé en 2010 par l'État russe afin de soutenir la recherche. Les autorités ont recommencé à financer Akadem Gorodok, qui touche aussi des crédits accordés par des pays occidentaux. Les partenariats internationaux perdurent. Natalia a assisté à la fuite des cerveaux dans les années 90 et à l'écouter, il faudra faire davantage pour retenir les savants de demain.
Les scientifiques importants ne partent pas. Comme les arbres, ils ont leurs racines enfoncées dans cette terre. Par contre, beaucoup de jeunes s'en vont. À l'endroit où je vis, on a octroyé des appartements aux gens il y a longtemps. Depuis, leurs enfants ont grandi et beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui à Londres, en Amérique, en France. Ici, il y a peu de perspectives, peu de moyens, mais le combat continue.
Le campus, lui, continue d'attirer les étudiants, surtout de Sibérie. Ils sont 6000 aujourd'hui. La direction assure qu'ils seraient de plus en plus nombreux à rester après leurs études.
Cela faisait bien 3 ans que des poutres en bois empêchaient l'entrée du musée national de Bosnie-Herzégovine. Elles viennent tout juste d'être retirées. Les visiteurs ont de nouveau accès à 4 millions de pièces retraçant l'histoire du pays et de ses communautés. Ce musée de Sarajevo est l'un des plus importants des Balkans, mais il a fait les frais des querelles nationalistes. François Sauvestre.
Comme ses 40 collègues, Azra Bečević Sarenkapa est venu travailler presque quotidiennement dans ce musée de Bosnie, pourtant vide de ses visiteurs. La conservatrice du département d'ethnologie a tout fait pour garder ses trésors intacts.
Pendant 3 ans, nous sommes venus ici pour travailler, faire des choses basiques dans nos collections, juste le minimum, juste pour assurer une bonne condition pour les objets, pour permettre leur conservation. J'ai aussi amené des pièces dans des plus petits musées de Bosnie, comme à Mostar. J'ai fait ça avec toute ma conscience professionnelle. Oui, j'ai beaucoup travaillé pendant ces 3 dernières années.
Le tout pour 0 €, pas de paye qui tombe à la fin du mois, plus d'eau ni chauffage dans les galeries et dans les bureaux des salariés. À l'origine de cette réduction drastique de budget, un vide institutionnel qui date de la fin de la guerre. Les subventions culturelles sont accordées par les entités bosniaques, croates et serbes, toujours déchirées. Un musée et son financement deviennent alors des instruments politiques pour les dirigeants nationalistes, déplore Inès Bulajić. Elle est porte-parole d'AXIA, une association citoyenne de défense du musée de Bosnie.
C'est une institution qui raconte l'histoire de la Bosnie-Herzégovine à travers les époques. C'est comme le British Museum des Balkans et nous devons le conserver parce que ça raconte comment les gens vivent ensemble. Certains ne veulent pas entendre cette histoire, mais nous devons la répéter encore et encore et encore. Je pense que c'est le seul moyen de préserver pas seulement le musée, mais aussi toutes ces ressemblances entre nous et la coexistence en Bosnie.
Messages et mobilisations qui ont donc abouti à ce que des fonds soient débloqués. Les employés du musée viennent de toucher leur paye de février 2012. Ils espèrent maintenant un financement pérenne et ne sont pas les seuls dans ce cas. 6 autres grands établissements culturels de Bosnie, dont la Bibliothèque nationale, connaissent les mêmes difficultés budgétaires.
Accent d'Europe, c'est déjà fini. À la réalisation, Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr et sur notre page Facebook. Restez à l'écoute dans quelques secondes seulement. Les infos.